Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, au Café Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Au Café Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, dans le Kinshasa.
En RDC, l'épidémie d'Ebola a été déclarée sur tout le territoire national le vendredi dernier par le ministre de la Santé publique. Et selon ce dernier, 12 cas, dont 7 décès ont été identifiés en province orientale. À cause des médicaments et des vaccins, à ce jour, seule la prévention est préconisée. Quels sont les symptômes de cette fièvre hémorragique d'Ebola et comment prévenir cette maladie? Pour en savoir plus, nous recevons dans ce studio le professeur Mouyembe Tankoum, il est virologue. Professeur Henri Nkonso, bonjour.
Bonjour.
Alors, pouvez-vous nous présenter cette fièvre hémorragique à virus Ebola?
La fièvre hémorragique à virus Ebola, c'est une maladie nouvelle, nous disons c'est une maladie émergente. Le premier cas, c'était en 1976, dans la mission catholique de Yamoukou. Mais auparavant, il y avait également une épidémie au Sud-Soudan, à Anzara et à Maridi. Mais ce sont deux maladies qui étaient concomitantes, provoquées par deux virus, donc deux virus plus ou moins différents, hein, et deux sérotypes différents. Mm-hmm. Bon, donc chez nous, le virus est provoqué par, la maladie est provoquée par un virus qu'on appelle donc le virus Ebola Zaïre, qui est la source la plus méchante. La maladie se caractérise par de la fièvre, les maux de tête, la diarrhée et des douleurs articulaires, etc. Mais dans 30 à 40% des cas, peut-être 50% des cas, il y a une manifestation hémorragique.
Alors, professeur, d'après nos sources, le virus Ebola compte 5 espèces. Quelle est l'espèce qui se manifeste actuellement en RDC?
Bon, nous avons donc 5 espèces. Donc, comme je disais, il y a le virus Ebola Zaïre, Ebola Soudan, Ebola Côte d'Ivoire. Ce sont là donc des sous-types qui provoquent donc des maladies assez sérieuses chez l'espèce de l'homme.
On parle aussi de disciple Bundi Bugyo.
C'est un nouveau sous-type qu'on vient donc qu'on a découvert en 2007. Mais avant cela, en 1989, on avait découvert également un autre sous-type, mais qui n'est pas pathogène pour l'homme, qu'on appelle donc Ebola Restone. Nous avons donc Ebola Zaïre, Ebola Soudan, Ebola Côte d'Ivoire, Ebola Restone et Ebola Bundi Bugyo.
Voilà. Par exemple, vous avez dit l'espèce qui se manifeste actuellement, c'est Bundibugyo.
Oui. Bon, ça c'est une espèce donc qui avait apparu en Ouganda en 2007. En 2007. Donc cela veut dire que c'est nous maintenant au Congo. Il y a deux sous-types qui circulent. Il y a Ebola Zaïre et Ebola Bundibugyo.
Alors la différence se trouve à quel niveau entre les deux espèces?
Bon, sur le plan donc des antigènes, bon ça nous entrons trop en détail, mais disons que Ebola Zaïre, c'est la source la plus méchante, qui provoque donc une maladie très sévère avec une très forte mortalité, jusqu'à 80-90% donc de mortalité, tandis que le Bundibugyo provoque une maladie moins sévère avec une mortalité autour de 27 à 30%.
Alors, professeur, comment ce virus est arrivé à s'introduire dans la population humaine?
Bon, nous ne connaissons pas encore très clairement comment ce virus sort de la forêt ou de la brousse et entre dans la population humaine. Mais ce que nous savons dans certaines régions, par exemple au Gabon et au Congo en face, souvent c'est les chasseurs qui vont en forêt, qui trouvent un singe ou bien un chimpanzé mort. Alors il entre en contact avec le sang de ces animaux morts, et puis alors il attrape donc le virus, et quand il vient donc dans la communauté, au village, il transmet donc la maladie dans la communauté. Et lorsque un malade va à l'hôpital qui n'a pas de conditions d'hygiène nécessaires, alors l'hôpital amplifie n'est-ce pas, à cette infection, et c'est à partir de l'hôpital que l'épidémie éclate et atteint dans la communauté.
Alors on peut dire que cette maladie provient des animaux, des chimpanzés, dans la forêt?
Non, parce que nous avons vu ici dans notre pays où nous n'avons pas de, on n'a pas de chimpanzés dans la région où il y a eu, n'est-ce pas, Ebola, par exemple à Tikwit. On n'a pas de singes, on n'a pas de chimpanzés, mais nous avons quand même eu la maladie. Et en 2008-2009, à Mweka, on n'a plus de singes, on n'a plus de chimpanzés, mais
au
Kasaï occidental. Mais le virus est là aussi. Alors, nous pensons que dans notre région, en RDC, nous pensons que les chauves-souris jouent un rôle dans la transmission, n'est-ce pas, de ces virus-là. Et alors, les chimpanzés et les singes ne sont que des victimes au même titre que l'homme. Ce n'est pas le singe qui est le vecteur, qui est le réservoir du virus, mais le singe est victime au même titre que l'homme.
Voilà. Alors, comment se fait le processus de transmission, de contamination, professeur?
Bon, la contamination, c'est vraiment... Bon, donc, nous avons vu l'homme, le chasseur, qui est infecté et qui amène donc le virus dans le village ou bien dans la ville. Et la transmission se fait par contact. Ce contact avec le sang, avec le urine ou avec la salive, n'est-ce pas, du malade, ou même en touchant simplement la peau du malade, vous pouvez attraper donc le virus Ebola. Alors, à quelle occasion ce contact survient souvent lors des soins qu'on donne aux malades. Donc, c'est le personnel médical qui est d'abord exposé.
Mmh.
Et également, également dans la famille, c'est lors des funérailles. Quand on fait la toilette des cadavres, on peut attraper donc ce virus-là. Et comme je vous ai dit, donc, pendant les deuils, beaucoup de gens touchent les cadavres. Et après ça, ils vont encore dire bonjour aux gens, etc. Donc la main joue un rôle très important dans la transmission du virus, soit à l'hôpital, soit en famille lors des deuils.
Alors quels sont les premiers signes qui peuvent renseigner la communauté que voilà, telle personne est en train de présenter les signes?
Bon, donc, nous disons que bon, les signes, donc les symptômes provoqués par le virus Ebola, ne sont pas vraiment spécifiques du virus Ebola. Parce que vous voyez la fièvre, quand quelqu'un fait le palud, il fait la fièvre, le mot de tête, etc. Donc, la fièvre qui coïncide également dans les mêmes symptômes. Donc, ce n'est pas vraiment spécifique du virus Ebola. Mais ce que nous disons, c'est que lorsqu'il y a vraiment un premier décès dans une famille, et puis un deuxième décès, par exemple, qui survient, et puis il y a une contamination dans l'hôpital, le personnel, n'est-ce pas, derrière l'hôpital, en ce moment-là, nous pensons déjà à une épidémie, qui survient. Il y a donc des liens épidémiologiques, comme nous disons. Donc, un premier cas, et puis un deuxième cas, dans la même famille, il y a donc des liens épidémiologiques. En ce moment-là, un symptôme comme la fièvre ou le fièvre, vomissement, mal de tête, peut déjà penser au virus Ebola.
Est-ce qu'il y a également des diarrhées?
Bon, la diarrhée survient également. Vous voyez, dans la plupart des cas que nous avons connus, des épidémies ici dans notre pays, Ebola, c'était reconnu par la diarrhée. Alors, on disait diarrhée rouge. Diarrhée rouge. Et au début, donc, on pense à une diarrhée due à des bactéries et on donne des antibiotiques, mais ça ne répond pas aux antibiotiques. La fièvre ne répond pas aux antipaludéens. En ce moment-là, nous pensons donc qu'il y a une autre maladie beaucoup plus grave, lorsque d'ailleurs la mortalité est très élevée. Alors, vous allez penser au virus Ebola.
Les questions de préoccupation, composées de 081-890-63-94. Nous allons accueillir Emmanuel Beaupré, qui nous appelle de Kananga, dans la province du Kasaï occidental.
Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de condition physique. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Bandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon et j'en passe. Okapi Sport, un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Comment prévenir la propagation du virus hémorragique d'Ebola? Emmanuel Beaupé, vous êtes à Canada, bonjour. On vous écoute, Emmanuel.
Ok, merci beaucoup, merci M. Chama. Aussi, bonjour à l'invité, professeur Mouyefe. J'ai une petite préoccupation, vraiment, je veux faire vraiment conseil. Je vois en fait que je suis la première personne à être déclarée, donc, contaminée du virus, je suis là à faire plusieurs.
Alors, Emmanuel, on vous écoute pas très bien. Sûrement, il y a un problème au niveau de la liaison téléphonique. Je vais vous demander de vous déplacer un tout petit peu. Peut-être que ça peut améliorer la qualité de la communication.
Je ne sais pas si vous vous déplacez.
Non, c'est toujours un peu coupé. Mieux vous déplacer encore un tout petit peu et je reviens à vous tout à l'heure. Le temps d'accueillir Fiston Kabamba qui nous appelle de Likasi, dans la province du Katanga. Fiston, bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute.
Ma première question, je vais poser à notre invité. Hein.
Oui.
Je voulais poser la question qui est, que pouvons-nous faire pour éviter la maladie pour nous qui se trouvent au Katanga, parce que nous avons peur de maladies. Nous voyons des choses qui se passent à l'Est, après les maladies Ebola, si c'est des maladies Ebola, que pouvons-nous faire pour éviter cela?
Merci.
Et quelles mesures qu'on a déjà prises pour... Les mesures que le gouvernement a déjà prises pour... d'enseigner à propos des maladies Ebola. Parce que vous avez dit que depuis 1960, que la maladie Ebola a disparu de notre territoire. Mais d'où vient-il de maladie Ebola? Ça vient d'où?
Merci. Professeur Mouyembe.
Oui, bon, voilà. Donc, la maladie Ebola, ou le virus Ebola, pour nous, le virus Ebola circule dans notre pays, hein, et en Afrique centrale d'une façon générale. Donc, ce virus circule. Et ce que nous voyons, c'est que la maladie avait apparu une fois au nord du pays, dans la province de l'Équateur, en 1976.
Et
il y a beaucoup. C'est donc une région forestière. Et puis en 1995, c'était à Tikwit. C'est une
dans
le Bandundu, c'est une région n'est-ce pas, de savane. Et en 2007, 2008, 2009, 2010, c'est au Kasaï occidental, c'est également une région de savane mélangée d'espace de forêt. Donc, le virus est partout, en savane, tout comme, n'est-ce pas, en forêt. Alors, ce que nous devons dire, c'est qu'il faut éviter, lorsque vous trouvez un animal mort en forêt, que ce soit les singes, que ce soit les rats, que ce soit une antilope, il ne faut pas toucher, il ne faut pas manipuler cet animal-là. Peut-être cet animal est mort, n'est-ce pas, du virus Ebola. Alors si le virus pénètre dans votre ville ou dans votre village, il faut également éviter de manipuler les cadavres, mais nus. Si vous n'êtes pas sûr de la cause du décès d'un individu dans votre village, en tout cas, portez des gants. Hein, pour laver le cadavre, pour le transporter, n'est-ce pas, au cimetière. Donc, il faut faire attention, c'est à partir de ça, surtout, lors des funérailles, qu'on s'infecte. Donc, ce que nous vous demandons, c'est vraiment d'avoir la propriété dans les mains. Quand les mains sont souillées, il faut les laver avec du savon, ça vous protège. Et si vous avez des gants, portez des gants pour manipuler, n'est-ce pas, les cadavres.
Bien, on va venir à sa deuxième question et le temps d'accueillir Emmanuel Boupé et Deo Gracias Tivava depuis Siro. Emmanuel, bonjour.
Bonjour.
Oui, allez-y.
Ok, je sais que j'aime le fait qu'ici au Pas-Santal, à Cana, j'étais la première personne à être préparée à voir le virus de Ebola. Pourquoi? Parce que je fais des cas pour vous, j'appelais les.
Emmanuel, désolé, on ne peut pas suivre correctement votre question. Il y a des coupures. Peut-être vous pouvez nous envoyer un SMS au 081 070 2050 et nous allons le lire tout à l'heure. Désolé. Deo Gracias Tivava, vous êtes à Isiro, bonjour.
Oui, bonjour, Kajam.
On vous écoute.
Oui, bonjour aussi à l'invité, bonjour à tous les autres de la Radio Okapi.
Oui, bonjour, en vous écoutant.
Ma préoccupation, c'est vraiment autour de messages de santé qu'on a déjà lancés contre la prévention pertinente pour cette maladie, fièvre hémorragique. Je voulais poser la question à l'invité. Est-ce que la manipulation de la monnaie fiduciaire peut être aussi une méthode de contamination? Si c'est vrai, quelles sont les méthodes qu'on doit entreprendre pour vraiment se garder contre ce virus?
Oui.
Deuxième préoccupation.
Rapidement.
Oui. Est-ce que les transports en commun, moto, bus, taxi, est-ce que ça aussi ça peut contaminer? Comment on peut se s'en prendre pour aussi limiter la contamination?
Merci de vos gracias. Madame Carole Kavira, vous êtes à Boutembo, au Nord Kivu. Bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, ma question est celle-ci. Attends, le professeur, on dirait que le virus d'Ebola n'est pas détectable via un laboratoire. Par exemple, vous allez à l'hôpital, on vous détecte le sang ou la peau, je ne sais pas, et on retrouve le virus d'Ebola à partir du laboratoire. Apparemment, c'est une maladie qui est seulement détectable à partir de symptômes qui sont visibles à l'œil nu. Ma question est celle de savoir, est-ce qu'il n'y a pas de méthode pour détecter cette maladie via un laboratoire?
Merci Madame Carole. Pierre Alokoro, vous êtes à Kisangani, bonjour. Oui, Monsieur Pierre, parlez un peu plus fort.
Oui, je voudrais d'abord demander à l'équipe de HCG comment on peut vivre ensemble avec les gens qui vivent avec cette maladie. HCG suivité, il faut éviter de l'air touché, il faut éviter de toucher l'air établi ou bien de le toucher.
Bien, merci Pierre. Professeur, la première question, celle des deux gracias, il dit, est-ce que, il veut savoir si, d'abord Emmanuel, il a posé la première question de savoir que faire pour éviter, et les questions des mesures prises au niveau gouvernemental pour prévenir les cas de contamination.
Bon, ça, donc, nous avons déjà dit, hein. Donc, c'est vraiment ce qui, avant tout, c'est l'hygiène. Hein? L'hygiène corporelle, l'hygiène des mains, hein, ce que nous appelons les précautions universelles. Si la maladie se transmet par le contact avec la peau des malades, avec les sang, les urines, etc. Donc, si vous portez les gants, même si vous avez un malade en votre famille, vous portez les gants, vous serez protégé.
Alors, gracias, depuis ici, Rudy, est-ce que la manipulation de la monnaie peut être une source de contamination?
Bon, la manipulation de la monnaie, c'est comme je vous ai dit, c'est question également d'hygiène des mains. Hein? En principe, quelqu'un qui est malade ne va pas manipuler, n'est-ce pas, la monnaie. Hein? Il reste à la maison. Donc, quand on commence la maladie, tout à fait au début, la chance de transmettre le virus est très limitée. Donc, il faut vraiment avoir les symptômes pour transmettre ce virus. Donc, un malade ne va pas manipuler, n'est-ce pas, les billets de banque. Donc, il y a très peu de chances que, en manipulant les billets de banque, la population va attraper le virus.
Il parle aussi du transport en commun.
Alors, le transport en commun, la même chose. Hein? Un malade ne va pas se promener, ne va pas se déplacer. Mais, comme je vous dis toujours, il faut vraiment avoir les mains propres. Quand vous avez pris une moto ou bien un bus, quand vous rentrez à la maison, la première chose, c'est laver les mains avec du savon. Ça vous protège, n'est-ce pas, contre toutes les maladies infectieuses.
Alors, Madame Carole veut savoir si on peut détecter le virus Ebola à partir des analyses au laboratoire.
Oui, le diagnostic se fait donc au laboratoire, parce que, comme je vous ai dit, les symptômes de la maladie ne sont pas spécifiques. Hein? Ce n'est pas parce que vous avez le mot de tête, vous avez la fièvre, vous avez la diarrhée, que vous avez Ebola, n'est-ce pas? Donc, pour confirmer cela, il faut absolument envoyer les échantillons au laboratoire. Et ceux qui prélèvent ces échantillons
sont des infirmiers ou des techniciens qui ont reçu une formation pour ne pas se faire infecter au moment où on fait les prélèvements.
Alors Pierre de Kisangani veut savoir comment vivre avec une personne qui est malade.
Oui, donc pendant l'épidémie, au début de l'épidémie, bon, bien sûr, vous vivez avec cette personne comme si elle faisait le palud ou la fièvre typhoïde. Bon, nous sommes habitués à vivre avec les gens qui font le palud, tout ça. Mais lorsqu'il y a une épidémie, en ce moment-là, une épidémie déclarée, confirmée, comme c'est le cas actuellement, en ce moment-là, il faut prendre des précautions. Il ne faut plus dormir avec cet individu qui fait la fièvre. Qui fait le mot de tête, qui a de la diarrhée. En ce moment, il faut prendre les précautions, c'est-à-dire il faut se séparer, les mettre dans une chambre à part.
C'est difficile de le savoir, professeur. Peut-être que la personne fait la malaria ou
une maladie. Non, lorsque nous avons donc en période d'épidémie, dans une ville, dans une localité, c'est connu, en ce moment-là, vraiment, il faut alors se méfier. Il faut prendre les précautions pour ne pas être en contact direct avec quiconque fait la fièvre ou fait n'est-ce pas, présente les symptômes de fièvre hémorragique Ebola.
Vous êtes jeune, vous êtes curieux, nous avons de l'énergie à partager ensemble tous les jours sur Radio Okapi. De 15 à 17 heures, c'est Total Énergie. 2 heures de musique, Actu People, emploi, environnement, nous ouvrons le dictionnaire dans J'aimerais savoir. Nous vous donnons aussi la parole dans Regard d'avenir, point de vue et portrait de jeunes. Chaque jour, jouez avec une question de connaissance générale. Pour mettre le feu de 15h à 17h sur Radio Okapi, Total Énergie, c'est l'énergie totale.
Comment prévenir la propagation du virus hémorragique d'Ebola? Job Itongi nous appelle de Kisangani, Junior Bobby Longo et Kinshasa, ainsi que Gilbert Kibosa. Job Itongi de Kisangani, bonjour. Job, vous êtes à Kisangani, bonjour. Job? Bon, désolé. Junior Bobby Longo de Kinshasa, bonjour. Junior, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute. Quelle est votre question?
Oui, ma question est celle-ci. Jusqu'à quelle température le virus d'Ebola résiste-t-il? Et vous parlez pour les méthodes de prévention. Pourquoi ne pas enterrer définitivement le cadavre mort du virus d'Ebola? Et il faut conseiller les gens comme ça. Et pourquoi aussi ne pas pour éradiquer cette situation définitivement? Il serait mieux que les gens ne mangent pas les étouffés, les animaux qui meurent dans la forêt, parce que nous voyons que le virus est déjà en circulation dans le pays. Ça serait aussi très intéressant d'enterrer directement les gens et de ne pas les manipuler, parce que à la culture africaine, vous savez comment on manipule les cadavres. Mmh. Il serait mieux que la personne meurt et on l'enterre définitivement pour ne pas même organiser les funérailles.
Merci Junior. Merci Junior. Gilbert Kibosa, à Kinshasa, bonjour. Gilbert, bonjour. Gilbert, vous êtes en ligne? Gilbert n'est pas là, n'est plus là. Unirambe nous appelle des maladies dans la province orientale. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi, ainsi qu'à l'invité du jour.
Quelle est votre préoccupation?
Ma préoccupation est celle-ci. Je voudrais poser une question à l'invité. Pour ceux-là qui sont au village, à 20 km de l'hôpital, quelle aide faut-il amener rapidement pour les sauver à ce fièvre Ebola?
Merci, Onirambe. Professeur Onirambe.
C'est pas ma préoccupation.
Ok. Bon, nous répondons d'abord. Pour la température, à Sikwit, nous avions prélevé des échantillons. Nous les avons laissés à la température ambiante pendant une semaine et on a encore retrouvé le virus dans ces échantillons-là. Donc, à 37 degrés, 38 degrés, le virus peut persister pendant plusieurs jours. Mais si vous chauffez à 506 degrés, l'eau bouillante, tout ça, bon, là, le virus est vraiment mort.
Et quelle est la durée d'incubation du virus, professeur?
La durée d'incubation, c'est-à-dire au moment où vous êtes infecté et au moment où la maladie commence, c'est entre 3 et 21 jours. Entre 3 jours et 21 jours. Donc, c'est une période d'incubation relativement courte. Alors,
je leur propose qu'on enterre directement les cadavres des personnes décédées au risque de cette maladie au lieu d'organiser des funérailles.
Oui. Bon, pendant la période, n'est-ce pas, pendant la période d'épidémie, c'est ce que nous proposons. Hein, nous demandons que les funérailles soient organisées par les membres de la Croix-Rouge qui ont subi une formation, qui portent des habits de protection, et qui vient donc prendre les cadavres et les amène, n'est-ce pas, au cimetière. Mais vous savez, ça bouscule toute une culture. Hein, c'est un peu difficile. Mais ce que nous proposons actuellement, c'est d'associer les membres de famille à cette cérémonie, n'est-ce pas, de funérailles. Et que les membres de famille qui vont laver les cadavres seront donc protégés également, ils vont porter donc les habits de protection, de sorte que tout se fasse selon les habitudes, selon n'est-ce pas, les coutumes, sans trop bouleverser, n'est-ce pas, ces coutumes-là.
Voilà.
Mais ce qu'ils proposent là, c'est vraiment la meilleure façon de faire les choses, c'est de ne pas organiser, n'est-ce pas, les funérailles, et d'amener directement donc les cadavres au cimetière.
Madame Donatienne Limbo nous appelle de Bounia et Jean-Paul Wandanda de Lumbashi. Madame Donatienne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Ouais, j'ai deux préoccupations. J'aimerais savoir à combien de temps le virus d'Ebola, à combien de temps, quelle est la période d'incubation du virus d'Ebola. Deuxième préoccupation, est-ce que j'ai une tribu chez nous ici, on mange les souris sauvages. Alors je voulais savoir, est-ce que ma tribu n'est pas vraiment exposée à cette maladie?
Vous avez dit, il y a une tribu qui chasse les chauves-souris?
D'accord, oui.
Qui mange les chauves-souris. Vous voulez savoir si la vôtre qui est proche n'est pas exposée. Merci madame. Jean-Paul Wandanda, vous êtes à Lumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, mon professeur Mouyembe.
Bonjour.
Ok. Voilà, je vais directement à ma préoccupation. Je voulais un peu intervenir dans le sens du dépistage permanent, de la prise en charge et de l'éducation de la population. Parce que nous parlons de dépistage, parce qu'il n'y a plus de moyens, professeur, parce que la République a quand même des hommes ciblés et des hommes endémiques. Et finalement, est-ce qu'il faudra attendre que la maladie soit déclarée pour qu'elle soit prise en charge? Parce qu'il y a aussi un problème de temps, c'est-à-dire la période d'incubation ainsi que la période d'invasion, hein, où la maladie se déclare clinique. Alors, en tant que professionnel de santé, professeur, y a-t-il pas de mécanisme de dépistage permanent dans des zones pandémiques? Là, c'est une précision. Dans des zones pandémiques, pour essayer de récupérer la situation rapidement, c'est-à-dire la prise en charge, que ça ne soit pas trop tard. Donc voilà, en fait, professeur, c'est par rapport au dépistage permanent. Est-ce qu'il faudra attendre qu'on soit dans la situation, c'est-à-dire l'épidémie, pour venir à la ressource de ma pauvre population?
Merci.
Voilà ma préoccupation.
Merci, M. Jean-Paul. Jacques Ndumba, vous êtes à Gbadolite, bonjour. Désolé, Jacques n'est plus là. Professeur, vous voulez la parole.
Bon, pour le dépistage, voilà. Disons, le problème, c'est quoi? C'est que les fièvres hémorragiques Ebola sont en train de maladies relativement rares. Comme je vous ai dit, la première épidémie que nous avons connue, c'était en 76. Et puis, en 1995. Vous voyez? Donc, il y a quand même une grande période, n'est-ce pas, qui est sans une épidémie. Donc, c'est une maladie relativement rare. Alors, cette maladie survient tout justement parce que l'homme entre dans la profondeur des forêts, dans la profondeur, n'est-ce pas, des savanes, et entre cette fois en contact avec ce virus qui circule. Si vous ne le provoquez pas, le virus ne viendra pas chez vous. Vous voyez? Mmh. Alors, et si on éduque les gens pour dire, voilà, lorsque vous trouvez un animal mort, ou bien vous êtes chasseur, vous trouvez un animal malade, il ne faut pas tuer cet animal malade, il faut le laisser. Si vous trouvez un animal mort, il ne faut pas toucher, parce que ça peut être un signe, n'est-ce pas, de Ebola. Donc, ça, c'est déjà quelque chose de très important.
Mmh.
Alors, nous ne pouvons pas faire un dépistage systématique, parce que nous ne savons pas quelle est la zone endémique, quelle est la zone qui n'est pas endémique. Mais d'après notre expérience, nous avons vu que la prévalence des anticorps, donc les hommes qui ont des anticorps, qui sont sans doute entrés en contact avec le virus, cette prévalence est quand même relativement élevée, par exemple au Bandundu. Vous arrivez donc dans certains villages, vous pouvez atteindre 10 à 15%, dont des personnes qui ont la signature du virus, n'est-ce pas, dans leur sang. Alors, on se demande pourquoi c'est une prévalence si élevée, alors des cas d'Ebola sont relativement rares. Cela suppose que il doit y avoir d'autres sources de virus Ebola qui ne sont pas pathogènes et qui circulent alors, n'est-ce pas, dans notre environnement.
Mmh.
Bon, ça c'est un problème de recherche. Nous allons voir.
Il vient de revenir également sur la prise en charge. Il dit qu'il y a un problème de temps. Il ne faut pas attendre longtemps.
Mais oui, c'est ça.
Il faut intervenir directement.
Oui, eh ben, le grand problème, c'est cette difficulté de détecter à temps cette maladie. Parce que nos médecins ne sont pas habitués à faire les diagnostics cliniques de cette maladie, qui est quand même une maladie rare. Donc, quand cette maladie survient, c'est sous forme, n'est-ce pas, d'épidémie. Parce que les médecins, au départ, ne sont pas préparés à reconnaître, n'est-ce pas, cette maladie-là d'office, parce que les symptômes sont semblables aux symptômes du palu.
Et le traitement est difficile.
Il n'y a pas de traitement.
Il n'y a pas de traitement.
Il n'y a pas de traitement. Un autre problème, c'est un problème technique. C'est que pour faire les diagnostics, ces dépistages-là, il faut avoir également les tests de diagnostic. Or, pour le moment, les tests de diagnostic n'est pas commercialisé. Il n'y a que les CDC des États-Unis qui fabrique ces tests-là. Et je vous dis que pour le moment, par exemple, nous n'avons
pas... Si vous prenez des prélèvements ici, vous devez envoyer aux États-Unis.
Oui, bon, mais nous avons déjà commencé à faire ça ici, mais nous sommes en rupture, par exemple, d'intrants. Donc, il faut demander aux Américains de nous envoyer, n'est-ce pas, ces réactifs. Nous ne pouvons pas les acheter à gauche et à droite. Donc, c'est un peu ça. Techniquement, c'est un peu difficile. Et sur le plan donc pratique, c'est une maladie qui est relativement rare. Et nous ne pouvons pas organiser des dépistages. Il y a d'autres problèmes de santé publique qui sont beaucoup plus urgents, plus importants.
On ira en maladie à poser la question de savoir, il y a un malade et l'hôpital, le centre de santé se trouve à 20 km du village. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là?
Non, ce qu'il faut faire en ce moment-là, c'est ou bien les agents de santé viendront au village pour voir si c'est vraiment Ebola. Ou bien alors, ce sont les gens du village, les membres de famille, qui vont les transporter à l'hôpital. Mais pendant le transport, il faut faire attention, comme je vous ai dit, de ne pas entrer en contact avec le sang, la salive ou les urines, n'est-ce pas, de ces malades-là, et de laver fréquemment les mains avec du savon. Et s'il y a des gants, il vaut mieux donc les transporter proprement, en prenant donc toutes ces précautions universelles.
Et Donatien est revenu sur la période d'incubation et elle parle aussi d'une tribu qui chasse les chauves-souris et qui est une tribu voisine. Est-ce que sa tribu n'est pas exposée?
Oui, comme nous l'avons dit, la période d'incubation, c'est entre 3 et 21 jours.
Mmh.
21 jours. Alors, les chauves-souris, pour nous, les chauves-souris peuvent être les réservoirs, n'est-ce pas, du virus Ebola. Et, par exemple, Luebo, dans le passage occidental, donc on consomme beaucoup de chauves-souris. Et il y a une période où les chauves-souris sont vraiment nombreuses, même dans la ville n'est-ce pas, de Luebo. Et ce n'est pas n'importe quelle chauve-souris, ce sont de grosses chauves-souris, oui, qui ont la tête d'un chien, par exemple. Hein. Mm-hmm. Ce sont vraiment de grosses chauves-souris. Donc ce sont ces chauves-souris-là qui peuvent être les réservoirs.
Alors, pour terminer, professeur Mouyembe, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les moyens de prévention?
Bon, donc les moyens de prévention, bref,
c'est laver régulièrement les mains.
C'est la propreté. C'est l'hygiène.
Oui.
C'est l'hygiène des mains, et également éviter d'entrer en contact avec les animaux morts trouvés, n'est-ce pas, dans la forêt.
Mm.
Et également pour le corps médical, parce que c'est le corps médical qui est le plus, n'est-ce pas, exposé.
Mm.
Le corps médical doit être bien équipé en vêtements de protection, notamment donc les gants, les masques qu'ils doivent avoir en permanence, n'est-ce pas, à l'hôpital. Et également, au sein de l'hôpital, il faut avoir de l'eau.
Mmh. Hein,
c'est vraiment regrettable de voir certains hôpitaux où il n'y a même pas de l'eau courante. Et là, c'est très dangereux.
Professeur Mouyembe Tansoum, virologue, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.